Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver, ravi d'être avec vous hein, dans un rendez-vous que maintenant vous connaissez bien, hein, 19h, 20h30 tous les lundis soirs, donc Mon Paris Sport. Alors on avait effectué la rentrée la semaine dernière en revenant sur les principaux événements sportifs. On va en quelque sorte la prolonger avec nos différents intervenants et nos différents invités. Je vais d'abord saluer celui qui porte bonheur au Paris Atlético. Quand il y va, il gagne. Hein, il gagne 2-0, c'est Eman Bassouani, le maire adjoint chargé des sports et de la jeunesse sur Paris 13e. Bonsoir Eman, merci pour votre invitation, pour votre venue.
Bah, salut Philippe, salut ouais. À l'équipe et bonsoir ouais. À toutes et tous.
Ouais. Vous savez que vous allez être le porte-bonheur hein, du Paris Atlético.
J'ai l'impression, ouais, j'ai l'impression. Ouais. J'étais pas la dernière fois, c'était un peu plus compliqué.
Ouais, ouais. Très bien. Et puis il représente donc le club de tennis de table de Paris 13, c'est Fosco Perantis. Salut Fosco, bonsoir.
Bonsoir.
Oh,
bonsoir
ça sent tous. Bon l'Italie. Ça sent bon l'Italie. Hein. Bon, c'est dommage, on va parler foot tout à l'heure. L'Italie n'y sera pas en Coupe du Monde. Hein.
Eh oui. Pas cette fois.
Eh ouais, c'est bien. Bon, enfin bon, ça avait fait un beau championnat d'Europe. Ils sont là avec moi. On va saluer celui qui nous dira tout sur les adieux de Roger Federer. C'est Thomas Louis.
Et oui, encore un adieu. Ouais. Un autre en deux semaines, ça fait quand même beaucoup.
Ben oui,
on en a
ben
marre
oui.
De voir nos gros champions nous quitter.
Voilà, très bien. Et puis lui, il se remet difficilement de la défaite de l'équipe de France hier en finale de l'Euro. Victoire logique des Espagnols. Hein. On
victoire
va en parler.
Logique, hein, les Espagnols beaucoup trop forts.
Ouais, pour le basket. Et puis il est là avec nous. On va d'ailleurs commencer exceptionnellement par la rubrique foot. C'est Eladji. Eladji, bonsoir.
Bonsoir Philippe.
Alors, on va dire pourquoi on commence par le foot, parce que tu commences des cours d'anglais, c'est bien.
C'est ça, des cours d'anglais supervisés, ouais, c'est ça.
Ouais, très bien. Bon, il n'y a pas Abou aujourd'hui qui se trouve à Londres, hein, et on sait pourquoi. Et puis, on n'aura pas non plus notre ami Stéphane qui est en vacances. Donc, voilà, donc on le retrouvera la semaine prochaine. Alors, on va commencer par cette semaine de Coupe d'Europe de foot. Paris Saint-Germain, donc, contre la Juventus. Bon, Paris qui a gagné contre Haïfa 3-1, après sa victoire la semaine dernière contre la Juve 2-1. Finalement, bon, Paris qui, hein, c'est sur son rythme de croisière. Ils n'ont pas été géniaux, mais ils ont fait le boulot.
Voilà, c'est ça. Ils n'ont pas été géniaux, mais ils ont fait le boulot. Les trois trios, le trio magique ont marqué chacun à leur tour. Voilà, franchement, voilà.
Donc, Paris Saint-Germain et Benfica en tête de la poule avec 6 points. C'est les deux prochains matchs. Hein.
C'est les deux prochains matchs. Et je pense qu'ils vont être très décisifs. Et parce que le Benfica aussi, on a vu une très belle équipe du Benfica depuis le début de saison qui ont battu la Juventus. Mmh. Qui ont joué à domicile. Ils ont battu 2-1, voilà. Et juste avant, ils avaient battu le Maccabi 3-0 à domicile.
Ouais. Du coup, attention à cette équipe du Benfica, attention, parce que déjà, aller jouer chez eux, c'est jamais facile.
Oh, quand
et
même.
On les a déjà reçus au parc il y a de ça 7-8 ans, et ce n'était pas non plus
pas
facile.
Il n'y avait pas Mbappé.
Oui, mais il y avait déjà Ibrahimovic, il y avait déjà des grands noms du Paris Saint-Germain. De toute façon, dans le foot, c'est jamais joué, surtout avec des champions. Donc on verra bien.
Très bien. Et puis, défaite pour Marseille, hein, ça fera pas plaisir à Abou. Hein, puisque après sa défaite à Tottenham 2-0, Marseille battu à domicile par
je l'avais annoncé. 1-0. Franchement, je l'avais annoncé. Je l'avais annoncé. Bah, du coup, même Abou, je pense que tu nous écoutes actuellement.
Même à Londres.
Voilà, je te rappelle que tu me dois un resto parce que ils ont perdu Marseille et je lui avais dit qu'ils allaient perdre contre Francfort. C'était évident, franchement, sur la scène européenne. On a vu Marseille n'ont pas, et franchement là, la seule équipe qui reste encore avec qui ils n'ont pas joué, c'est le Sporting qui sont premiers. Franchement,
alors bon dernier très compliqué avec 0 point. J'allais dire que les vieux démons reviennent
avec 0 but surtout aussi avec.
En plus,
c'est ça le dernier, vous savez, bon, une petite voilà, le dernier buteur. Bon, le dernier buteur dans le jeu, c'était il y a 7 ans. Et c'était Souleymane Diawara qui a pris sa retraite.
Ouais, c'est une bonne stat,
ça. Déjà. Ouais. Et sinon, c'était que sur penalty contre l'Olympiakos. Double penalty, Payet. Ouais. Voilà, et ça, c'était.
Comment expliquer que l'OM, comme ça, n'y arrive plus en Ligue des Champions?
Il manque de l'expérience, dans cette équipe. Il manque quelque chose. Pourtant, face à Tottenham, les 60 premières minutes, on se dit qu'il y a quelque chose à faire.
Est-ce que Francfort en a plus? Est-ce que Tottenham en a plus? Pas forcément, quoi.
Ouais, mais
franchement sur le papier si quand même.
Si sur le papier quand même. Sur le papier quand même. Il y a un palmarès,
il y a un palmarès, c'est
il y a un vestiaire différent, il y a voilà.
Il y a l'étoile quand même.
Oui, Marseille on l'étoile mais bon.
Ça fera 20 ans.
Ouais, mais c'est ça, c'est ça qui est triste de dire. Ouais. Ça fait 20 ans et qu'on attend que l'OM fasse quelque chose dans le jeu déjà et après on verra.
Bon, en tout cas, c'est bien parti pour Paris, c'est problématique pour l'OM. En Ligue Europa, la semaine avait été très belle la semaine dernière. Cette semaine, ça a été une semaine catastrophe. Aucune victoire, puisque Rennes, qui avait gagné à l'Arnaque à 2-1, a concédé nul contre Fenerbahçe 2-2. Rennes, quand même, malgré promettre son groupe, avec égalité avec Fenerbahçe.
Franchement, 80, allez, 5 minutes. Très bien géré, et après c'est le total craquage, carton rouge, penalty, c'est Rennes. T'es déçu parce que franchement c'est une belle équipe à avoir joué, on l'a vu aussi hier contre l'OM, franchement c'est beau à avoir joué, mais c'est toujours pareil, c'est toujours des craquages dans les dernières minutes. Sa dernière campagne européenne qui avait été assez bien réussie, quand ils perdent contre Arsenal, c'est aussi un craquage dans les derniers temps d'une rencontre. C'est décevant parce qu'il y a une belle équipe, il y a des beaux joueurs, il y a des bons joueurs de ballon, il y a un bon esprit. Donc on espère qu'ils finissent bien cette phase de groupe.
Alors Nantes avait battu l'Olympiakos 2-1 la semaine dernière. Les Nantais là ont pris un carton. Ils ont été battus 3-0 par Karabakh. Finalement les Nantais sont quand même 3e de leur poule, à égalité avec Karabakh, 3 points. C'est bizarre quand même de battre l'Olympiakos et puis comme ça prendre un carton.
C'est pas facile de gagner à Karabakh, c'est pas facile d'aller là-bas et de les battre.
C'est quoi, c'est le contexte là-bas?
C'est le contexte, il y a un peu de tout.
Il y avait l'année dernière qui avait affronté Karabakh, c'est déjà très compliqué. Faut aller là-bas, faut se déplacer et jouer son jeu, c'est compliqué quoi. Mais prendre 3-0, c'est un peu dur.
Et Ladji en parlait la semaine dernière, ou peut-être c'était Abou, il parlait de l'effectif de Nantes et c'est pas facile.
C'est ce que je disais. Moi je disais que l'effectif de Nantes, parce qu'on disait c'est bien, on a conservé Blas, on a conservé Lafont. J'ai dit ok, c'est bien de les conserver. Mais ouais, bien sûr, c'est très bien de les conserver. Mais il faut d'autres joueurs. Là, on joue l'Europe, etc. Il faut recruter. Ils n'ont pas recruté. Ils se sont dit, bon, si on garde nos joueurs, c'est bien. Mais ce n'est pas comme ça. Puisque l'année dernière, ils ne jouaient pas en Europe. Là, ils jouent en Europe. Tu es obligé de recruter. Ils ne l'ont pas fait. Du coup, ils ont du mal à tenir malgré le 0-0 qu'ils ont fait contre Lens ce week-end dernier. Voilà, ils ont du mal quand même.
Alors, même irrégularité pour Monaco, qui avait gagné donc, la semaine dernière à l'Étoile Rouge de Belgrade 1-0. Les Monégasques battus à domicile par Ferencvaros. Alors, c'est pareil, les Monégasques, ils sont deuxième à égalité avec Trabzonspor, mais troisième donc,
c'était prévisible. Moi, je dis c'était prévisible. On voit ce que Ferencvaros, c'est une très bonne équipe. Moi, je les regarde, je les suis de temps en temps, et franchement, voilà. Et je te le dis honnêtement. J'ai joué Ferencvaros contre Monaco, ils avaient une cote à 7,50 et je les ai joués et j'ai gagné parce que j'étais persuadé. En fait, Monaco vont mal, vont très mal. Monaco vont très mal, on le voit même en championnat, on le voit même en Ligue des en Europa League, etc. On le voit. Et là, Ferencvaros, eux, ils enchaînent les cartons, les clean sheets, les manita, ils enchaînent dans leur championnat. Ils sont vraiment au-dessus. Donc quand ils arrivent, ils sont déjà plus rassurés, ils sont déjà plus sûrs d'eux, et ça se sentait avec la compo en plus qu'il a mis, ça se sentait.
Messieurs, vous qui êtes des sudistes qui allez souvent à Monaco puis à Nice voir les matchs.
En fait, à l'image de leur capitaine, c'est une bête blessée en ce moment Monaco, c'est Ben Yedder qui met pas un pied devant l'autre. Il a marqué ce week-end, c'est quand même premier but de la saison, en espérant que ça lui redonne un peu de confiance, mais c'est vrai que c'est décevant encore une fois, parce que eux, ils ont un vrai gros effectif, ils peuvent faire quelque chose.
Ils ont fait un bon recrutement.
Voilà, il y a un bon recrutement, il y a un style de jeu pas encore très clair, mais c'est en développement, il y a quelque chose à faire comparé à Nice.
Donc c'est Trabzonspor qui devance à la différence de but, donc Monaco pour la deuxième place. Et puis dans la Ligue Europa Conférence, ça va aussi vous intéresser, match nul entre donc Nice et le Partizan de Belgrade, un partout. Il y avait Nice-Cologne aussi 1-1. Nice, c'est pareil, ils sont troisième à égalité avec le Partizan, mais là aussi devancé à la différence de but.
Ah oui, alors là le problème est tout autre à Nice, c'est qu'il n'y a rien dans cette équipe. Je suis désolé, là ce début de saison est très 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 décevant.
Poussif en fait.
Mais c'est même plus poussif, c'est-à-dire que chaque match, là les supporters, j'ai beaucoup d'amis supporters, ils se contentent d'un match nul contre une équipe.
Et puis apparemment il y a une gestion de club qui est un peu compliquée.
Donc assez étrange. On espère vraiment qu'ils vont relever la tête.
Aussi, je pense qu'on n'a pas eu Stéphane. Stéphane qui nous écoute.
Un peu de repos
bien sûr. Mais je pense que son coup de gueule aurait été du côté des arbitres français.
Il y a beaucoup de problèmes dans l'arbitrage. On
c'est simple, de toute façon, en Ligue 1, depuis le début de la saison, il y a eu 32 cartons rouges distribués en Ligue 1. Ouais. En Liga, c'est le deuxième championnat où il y a eu plus de cartons rouges et il y en a eu 18. En Serie A, il y en a eu 15. En Bundesliga, 11. Et en Première Ligue, 4. La Ligue 1 bat vraiment tous les records.
Et la Ligue 2, 43.
La Ligue 2. Ouais, oh, bon, j'en parle même pas de la Ligue 2. J'ai préféré laisser la Ligue 2. Voilà. Ouais. Mais Ligue 2, c'est incroyable, quoi. Ouais, ouais. Cette journée, 32 cartons rouges distribués. On a vu à Todibo, même pas 9 secondes, 9 secondes de jeu, un carton rouge. J'ai vu, cartons rouges.
Ça ne vaut même pas jaune.
Bah, en fait, secondes, parce que c'est le dernier défenseur. Je comprends dans le sens où c'est le dernier défenseur, mais après, ils sont tous alignés. Tous les défenseurs sont alignés. Du coup, jaune max, mais tu mets pas un rouge. Tu sors pas un rouge. T'es obligé. Ça siffle. Voilà, ça siffle. Mais ça mets un jaune. 9 secondes, tu peux pas mettre un rouge comme ça, surtout qu'il y a même pas, voilà, il y a pas vraiment d'action. C'est... Je comprends pas les arbitres français. Franchement,
on essaiera d'avoir un jour un arbitre.
Moment,
on essaiera de voir.
Ça serait super intéressant. Ça serait vraiment super intéressant.
On en connaît quelques-uns. On les fera venir parce que c'est vrai qu'il y a parfois des interprétations. On dit qu'en Angleterre, on siffle moins, on laisse un peu plus développer le jeu.
Pour continuer sur la stat d'Eladji, l'équipe de Reims qui a encore pris un carton rouge face à Monaco ce week-end.
Pierre Caillou.
Voilà. Et ils ont pris 4 cartons rouges depuis le début de la saison, ce qui est le total des cartons rouges de la Première Ligue.
Ah ouais.
C'est pour vous dire à quel point c'est... Enfin, là, t'es supporter de Reims, tu trembles à chaque intervention
d'arbitre. Encore, c'est la Ligue 1, parce que quand tu regardes la Ligue 2, le match Metz-Guingamp, là où il y a 3 cartons
rouges... C'est un sketch.
Carton rouge sur carton rouge, c'est interprétation de l'arbitre, la VAR marche pas, on sait pas trop. Et Metz, qui était bien dans le match, bah, à l'arrivée, finit à... Je crois c'est, il finit à 7 ou à 8.
Il finit à 8.
Voilà.
Parce qu'à 7, le match s'arrête.
Ouais,
ils
voilà,
ont perdu sur tapis vert.
Du coup, bah, du coup 6-3, ils perdent alors qu'ils étaient dans le match. Mais...
Ouais, ils étaient dans le match. C'est et franchement, le gardien a pris un carton rouge. Bon, il y en a un vraiment, il a découpé le joueur. Le carton rouge.
Sort,
et honnêtement, voilà, est très justifié, largement justifié. Mais le gardien est sorti en larmes. Franchement, ça m'a fait de la peine. Ouais. Il ne le touche même pas. Il ne touche même pas le joueur. Il prend un rouge.
Messieurs, la VAR, ça sert à quoi?
Franchement, je me demande. Je me demande, ça sert à quoi? Franchement.
Parce que bon, voilà, on peut se tromper, ça peut arriver, le jeu il est rapide, il y a la VAR, puis voilà, puis on revient sur sa décision. Même si c'est
obligé, à partir du moment où tu sors un troisième carton rouge contre la même équipe dans le même match, voilà. T'as pas envie de faire d'erreur, tu vas vérifier la VAR, et il faut que tu sois sûr de ton coup. Et il serait parti voir la VAR à ce moment-là, il aurait vu qu'il n'y a pas rouge. Déjà, et sans oublier que Metz était en train de mener quand même. Metz, ils menaient, le match se passait très bien pour eux, ils menaient 3-1, ils ont perdu 6-3 quand même. Voilà.
Du coup, mais il est là le problème en fait, c'est que la VAR est un très bon outil quand elle est utilisée. Mais elle est trop peu utilisée en fait.
Il faut toujours quand même dire
ça dépend.
Même
ça dépend. En fait, elle est beaucoup. Moi, je trouve qu'elle est beaucoup utilisée pour rien. Il y a des fois, par exemple, on sait qu'il y a but. Il n'y a pas besoin de. Voilà, 30 minutes, le mec il va regarder, il y a un orteil devant l'autre ou pas. Franchement. Voilà, moi pour moi en tout cas, la VAR, j'aimerais bien qu'on retire la VAR vraiment. Parce que pour moi, ça.
C'est-à-dire que, bon, enfin, c'est un autre débat, mais l'erreur, elle doit rester humaine.
L'erreur doit rester humaine, et c'est ce qui fait le foot.
Quitte à.
C'est ce qui fait le foot. La main de Dieu, de Maradona, Thierry Henry, tout ça, ça reste dans
les injustices sportives, ça fait la légende.
Ça fait des fois,
on va dire, mais
voilà. Ouais. Du coup, quand même, on a déjà beaucoup d'arbitres. Il n'y a pas qu'un seul arbitre central. Il y a des arbitres de touche, il y a des arbitres un peu partout. C'est déjà pas mal. Moi, je trouve rajouter la VAR en plus, après, c'est un autre débat.
Allez, on passe à la Ligue 1. Hein, où là, il y a deux équipes qui ont fait la bonne opération. Ce week-end, c'est le Paris Saint-Germain et puis Lorient, puisque Lorient est allé gagner à Auxerre 3-1, nul entre Marseille et Rennes 1 partout, Nantes-Lens 0-0, donc comme Eladji en parlait tout à l'heure, victoire du PSG à Lyon 1-0, et puis victoire importante d'Ajaccio contre Brest 1-0, donc Paris 22 premier, Marseille 2e 20, 3e Lorient 19, 4e Lens 18, et puis en bas de tableau, donc Reims 17e avec donc 6 points, 18e Strasbourg et Brest 5 points, et 20e Ajaccio 4 points. Bah ça y est, au bout de 8 journées, on commence à voir déjà le PSG prendre les devants. C'est pas une surprise.
C'est pas une surprise, mais j'aimerais parler du bas de tableau dans un premier temps. C'est encore une journée sans victoire pour Strasbourg. Alors que le match contre Montpellier, ils vont chercher, honnêtement, s'ils se battent, ils n'ont pas toutes les qualités. Ils se battent pour aller chercher le match nul. Et à la 94e pénalty pour Montpellier, sur une faute de Valère Germain, c'est... Ça me fait de la peine, honnêtement, parce que Strasbourg, l'année dernière, je pense qu'on a tous, aimé les voir jouer. Je pense qu'on aurait aimé les voir en Europe cette année.
En plus, avec un super entraîneur. Hein.
Ah oui, c'est ça. Donc, encore une fois, décevant. On a hâte de les voir relever la tête. J'ai l'impression de dire ça pour toutes les équipes, c'est aujourd'hui. Mais bon, c'est vrai que voilà. Et pour revenir sur le Paris Saint-Germain, victoire très importante hier.
Oui, bien sûr.
Très, très importante, avec du fond de jeu, avec de l'envie. Ça rassure, je pense, les supporters parisiens qui avaient vu un match contre le Maccabi Haïfa sans envie, sans pressing d'étroit devant. Cette fois, on a vu clairement, on a vu en plus Fabián Ruiz titulaire. Mm-hmm. Intéressant, pas encore, je pense, à l'aise, assez à l'aise physiquement, excusez-moi, mais très intéressant. Vitinha, il surfe au-dessus de tout le monde. Attention, la blessure de Verratti. Ça a été officiel il y a quelques heures. Il ne sera pas du coup du déplacement en Italie pour les matchs internationaux. Donc un petit peu de repos, ça lui fera du bien. Mais attention Verratti, parce que là, il a rarement été aussi fort. Mais il ne faudrait pas qu'il se blesse.
Très bien. Allez, tiens, ça va.
Par contre, les supporters lyonnais, franchement, j'ai de la peine pour eux. Je peine pour eux.
Aucune peine.
Voilà. Franchement, troisième défaite consécutive les Lyonnais.
Bah oui.
Voilà.
L'entraîneur est sur la sellette. Hein.
L'entraîneur est sur la sellette, il ne l'avait jamais enchaîné.
Et notre ami Stéphane nous a dit que Laurent Blanc, il y a des tractations. Enfin bon, voilà.
À voir.
On verra bien.
Allez, ça va intéresser Eman, tiens, la Ligue 2. Hein, puisque donc, le Paris FC a été battu par Rodez 2-1. Victoire de Grenoble devant Caen 1-0. Le Havre qui bat Annecy 2-0. Bordeaux qui bat Dijon 2-1. Et puis Sochaux qui bat Nîmes 3-1. Ce sont les principaux résultats. Sochaux en tête 19 points. Le Havre deuxième 18. Troisième Bordeaux à Amiens 17. Et le Paris FC, bon. Mi figue mi raisin, donc 12e à égalité avec Laval et Pau avec donc 10 points. Eman, le Paris FC, bon, c'est dommage, hein, il rate à chaque fois le coche. Cette année, c'est une saison très 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 moyenne.
C'est une saison très très moyenne en effet, mais bon, après, c'est un début de saison où faut se rappeler aussi qu'ils sont descendus de la Ligue 1. Mais et puis surtout, je crois qu'il y a eu aussi une réorganisation au niveau de ceux qui devaient descendre et ceux qui devaient monter. Du nombre en tout cas de clubs montants et descendants, donc je pense que ça a un impact et ça joue aussi là-dessus, mais c'est pas le seul critère évidemment.
Nous on rêve qu'il y ait deux clubs à Paris. Bon, à chaque fois il manque pas grand chose. Ça fait trois années quand même.
Moi je rêve qu'il y ait trois clubs à Paris.
Ah oui, je comprends.
Attention, bien, on est en 13e.
C'est bien m'avoir repris.
C'est un début de saison difficile. Je me souviens aussi du match face à Bordeaux qui a été très 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 compliqué, dur dès le début de la saison. C'est compliqué, mais bon, peut-être qu'ils vont se bouger un petit peu et remonter un peu la pente.
Voilà. Alors,
serait-ce que au moins pour se maintenir dans le niveau.
Oui, parce que cette année, il faut faire attention quand même. Il y a quatre descentes cette année. Attention. Et puis bon, on va essayer d'avoir le Paris FC aussi. On est en contact avec Valentin Paris.
Ouais.
Donc, on va essayer d'avoir en tout cas le Paris FC. Bon, Charletti, ça va? C'est un stade de foot, parce qu'on avait beaucoup quand même, on avait beaucoup critiqué Charletti après les incidents, et on y était contre Lyon.
J'y étais, j'y étais aussi.
Et on y était,
Mais bon, là, on a fait le nécessaire, on a posé un filet, etc., c'est sécurisé.
C'est vrai, je suis retourné depuis.
Moi, j'y suis retourné, d'ailleurs, pour le Paris 13 Atlético, qui joue aussi dans ce stade maintenant. En tout cas, pour ces grands matchs. Et puis, il y a eu des aménagements, on a refait la pelouse cet été. On a posé un filet de sécurité entre les supporters locaux et visiteurs. Et puis, évidemment aussi des plaques sur tout le barriérage qu'il y a autour du stade qui était quand même assez ancien et qui permettait quand même aux gens d'escalader les grilles pour rentrer dans le stade.
C'est ce qui s'est passé avec Lyon.
Exactement. C'était deux affiches comme ça. Lyon-Paris. On fallait s'y attendre. Donc bon, maintenant, je pense que le club a appris de ses erreurs.
Parce que ce qui est bien en plus, c'est que pour voir un match à Charletti, le RER, il est là. Il n'y a pas de problème pour les transports. C'est plus facile à la rigueur que d'aller au Parc des Princes.
Complètement. Oui. C'est beaucoup plus accessible. Le tram, le bus, RER. C'est très accessible. Et puis bon, l'espace permet aussi d'accueillir un certain nombre de personnes. C'est pas quand on va au Parc des Princes, c'est vaste, mais en même temps il y a beaucoup de circulation, donc bon, il y a moins de flux de personnes, donc c'est plus compliqué.
À l'époque, quand le parc a été construit, on pensait qu'on le remplirait pas.
De base, c'était pas prévu pour être un stade de foot, Charletti.
Il y a la piste,
d'athlétisme.
Pas un vrai stade de foot,
ça va le devenir parce que il y aura d'autres aménagements par la suite, mais on en parlera plus tard.
D'accord. Allez, on va parler aussi du national, il ne faut pas l'oublier. Il en parlait, Eman. 4-0 pour l'Atlético donc la semaine contre Le Mans, hein, battu au Mans 4-0. Et puis il y a eu la victoire 2-0 contre le Restart. Il s'est passé quoi? Parce qu'on pensait que c'était un véritable déclic, hein. Alors l'Atlético, ils sont 15e avec 6 points, hein. Je compte une victoire, 2 défaites, 3 nuls.
C'est ça.
Ouais. Départ mitigé. Alors c'est vrai, quand on a pris la bonne nouvelle la semaine dernière, on s'est dit c'est bon, psychologiquement, ça y est, c'est fait. Ils vont redécoller. Et un gros coup d'arrêt donc au Mans 4-0.
Ouais, mais bon, je pense que, enfin, après c'est difficile quand même. Hein. Oui, c'est la première fois qu'ils sont dans ce niveau-là. Moi, d'ailleurs, j'en profite pour saluer le président, hein, Frédéric Pereira, qui est Namori Keita aussi, qui est directeur sportif, avec qui je travaille beaucoup et qui me font, enfin me rendre des comptes assez régulièrement sur le club. Et puis moi je regarde aussi, j'ai assisté au match face au Restart où je les ai trouvés très bons,
malgré que ce soit très compliqué, vous êtes devenu la mascotte, hein. Un peu, vous allez et puis gagne, il fallait à tous les matchs,
et de toute façon maintenant, excuse-moi,
vas-y, je t'en prie.
Dans un match de foot, enfin surtout en France maintenant, parce qu'on a compté la Ligue 1, la Ligue 2, mais en National aussi, il y a beaucoup de cartons rouges distribués, puisque là l'Atlético sont imposés contre le Restart, mais le Restart avait pris un rouge. Bah la semaine d'après c'est eux, ils prennent un rouge, et l'autre côté, bah après c'est le festival, voilà, ouais, 4-0, ouais, après un carton rouge c'est très difficile de rester au niveau, voilà,
c'est sûr,
voilà.
Alors on va rappeler que c'est Dunkerque, hein, qui est en tête avec 12 points devant Orléans, Nancy et Versailles qui joue ce soir avec 10 points. Il y a Concarneau, Versailles donc à 21h, Versailles qui joue à Jean-Bouin et qui va très bien. Et puis il y aura Paris Atlético Avranches le 23 septembre à 19h30 à Charletti. Je sais que Thomas Louis, il va aller commenter le match sur Twitter avec Abou. Hein.
Oui, le prochain match, voilà.
Il faut savoir qu'on le fait. Hein.
C'est ça.
On suit le Paris Atlético.
Du coup, on va aller faire ça, bien sûr. Bah oui. On est là pour ça. C'est pas, on n'est pas dans le 13e pour rien. Voilà. Et du coup, oui, on va aller suivre ça.
Le 23.
Ça, le 23 semaine, avec Abou. Donc voilà, ça va être intéressant. Moi, c'est le premier match que je vais aller voir des anciens Gobelins. Du coup, je ne sais pas si on peut encore les appeler comme ça. Et non, hâte de voir ça.
T'as un petit commentaire?
Moi, j'étais allé avec Abou pour voir le match du Paris FC, Paris Atlético, pardon. Face à Sedan, c'était un match nul, mais qu'il y avait la place franchement pour les Gobelins ou le Paris 13 Atlético. Je pense que il faut quelques matchs pour se relancer, que faut espérer que ça finisse pas en bas du tableau, quoi.
Et pour revenir, parce qu'on parle des clubs parisiens, que c'est très important parce qu'on est là à Paris, mais moi je trouve ça très encourageant pour Versailles aussi. Versailles, moi j'aimerais bien voir la Versailles en Ligue 2. Clairement, ils nous ont fait rêver l'année dernière en Coupe de France. Cette année,
ils n'ont pas de stade, ça va être compliqué.
Compliqué, oui, ouais. Surtout que oui, ils n'ont pas de lumière.
Ils jouent à Jean-Bouin, c'est ça. Ouais. Donc, vis-à-vis du château.
Ouais. Mais après Versailles,
ils peuvent être premiers aussi. Ils ont une journée de retard. Ils sont à 2 points c'est de Dunkerque qui sont premiers. Ils gagnent leur prochain match.
Ils jouent ce soir contre Concarneau. Hein.
Et la semaine dernière, on parlait des investisseurs, mais je pense honnêtement que ils ont fait un très bon mercato d'été. Mais les investisseurs pourront aussi investir dans les infrastructures de Versailles si jamais ils font une très bonne saison. Je pense que ça peut être quelque chose qui pourra arriver. Voilà, un tremplin.
Allez, on va parler des féminines, faut pas les oublier quand même, hein, parce que il y a le Paris FC qui a aussi une belle équipe féminine qui a fait match nul, c'était presque un derby, donc à Fleury-Mérogis 1 partout, le PSG qui est allé gagner à Rodez 4-1, et comme Lyon a battu Soyaux 2-1, et ben c'est Paris Saint-Germain, Lyon et Montpellier en tête avec 6 points, 4e Fleury, Bordeaux et le Paris FC avec 4 points. Faut pas oublier les féminines aussi, hein, c'est important. Elles arrivent à jouer quand même à Charletti entre le Paris Atlético et puis le Paris FC, ou alors elles sont allées ailleurs.
Ça a été mon sujet pendant tout l'été.
Ah bah voilà, chez tout moi.
non mais enfin on arrive à bien cohabiter, hein, ça se passe très bien, et puis évidemment il y a une question d'utilisation de la pelouse et de son état, en fait. Il faut qu'elle soit en bon état et qu'elle soit aux normes et homologuée en tout cas pour pouvoir jouer. En tout cas homologuée par la fédération, et donc faut un bon état de la pelouse, donc ça compte aussi, surtout que on a eu un début de saison aussi avec pas mal de pluie au moment où il y a eu des matchs, donc c'était assez compliqué, ça abîmait un petit peu, mais ça se passe très bien, et en fin de compte les féminines en plus joueront moins de matchs à Charletti parce qu'elles ont perdu les qualifications pour la Ligue des Champions face à Rome, je crois, si je me souviens bien, donc ça fera moins de matchs à Charletti, et donc ça permettra à la pelouse de mieux respirer et de permettre une meilleure cohabitation en tout cas entre le Paris FC et le Paris 13 Atlético.
Ouais. En moyenne, il y a combien de spectateurs avec le Paris Atlético?
Alors, la dernière fois que j'y suis allé à Charletti, ouais. C'était à Sedan. Donc, il y avait environ.
C'était bien rempli. Hein.
Ouais, c'était pas mal bien rempli. Mal rempli. En plus, ouais. C'était un lundi soir de rentrée. Ouais, évident, ouais. Franchement, je pense que pour aller à la Louche, je pourrais dire. Allez, on pourrait dire 2500, 3000 personnes
c'est
bien, maximum.
Ouais, il y avait beaucoup de supporters de Sedan en plus. Ouais. Donc, c'était une bonne ambiance.
Ouais.
Et puis, ça va. Les deux clubs, Paris FC, Atlético, ça va, ça, non,
ah, si. Tu touches un sujet.
C'est une bonne cohabitation. Ah, mais je sais tout, moi.
Non, mais oui, il y a une bonne cohabitation. Ouais. En tout cas, il y a de l'intelligence, en tout cas, dans tout ce qui se fait. Et il y a du respect, quoi. Donc, c'est le principal.
Très bien. Eh bien, Eladji, merci. Juste un petit mot, quand même. Il y a beaucoup de turbulences autour du foot français actuellement. On en parlera peut-être avec Stéphane la semaine prochaine. C'est pas un petit peu inquiétant, toutes ces affaires, en vue de préparer le mondial, quand même?
Franchement, ça peut l'être. Hein.
Beaucoup
ça
de blessés aussi pour le rassemblement
des
Bleus.
Beaucoup de blessés. Ouais. Bon, après, la plupart des blessés, ce ne sont pas des blessés graves qui sont assurés de ne pas être là en Coupe du Monde. Du coup, voilà, je pense que ça va niveau blessure. Mais tout ce qui se trame autour, franchement, c'est des mauvaises ondes depuis le début. Et franchement, ça sent la catastrophe en Coupe du Monde. Bon. Moi, je le dis. En tout cas, pour l'instant, on est à peu près un mois et quelques.
Surtout qu'il y a un mauvais sort. Hein. On sait que toutes les équipes qui ont gagné la Coupe du Monde depuis quelques années, elles se font sortir en premier tour. Mmh. La Coupe du Monde suivante. Hein.
Attention. C'est arrivé pour l'Espagne.
Sauf le Brésil,
donc
en 2002, donc, champion du monde qui avait été mis en quart de finale.
Pour la France aussi.
Depuis 98, c'est ça. Ouais.
Donc attention.
Du coup, ça sent, voilà. Avec Mbappé aussi, qui est là, sans trop être
mais
là.
Ça rappelle limite quand on est arrivé à la Coupe du Monde 2010, où il y avait déjà pas mal de problèmes avec les entraîneurs.
Ça commençait déjà, ça commence, et ça a explosé en Coupe du Monde.
On espère que si ça peut exploser après la Coupe du Monde, ça peut être cool.
La différence, c'est que les joueurs font confiance à des chances qui n'étaient plus le cas en 2010 avec Domenech.
C'est vrai.
Voilà. Merci en tout cas. Elle a dit, je te laisse aller au cours d'anglais. Hein. Voilà. Et puis tiens, notre ami Fosco, il va nous lancer la première pause musicale. Il va jouer les animateurs radio à l'italien. Allez, on y va.
Très bien. Alors, on part en voyage.
Ouais.
Comme les ondes del mare.
Oh là là, c'est bien
de
dit.
Gian Maria Testa.
Allez, on y va.
Certe nostre sere hanno un colore che non sapresti dire, sospese fra l'azzurro e l'amaranto e vibrano di un ritmo lento, 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 ma noi che le stiamo ad aspettare, noi le sappiamo prigioniere come le onde del mare, come le stelle del mare, come le onde. Nostre sere e sanno di partenza, di tramonto e di sorvolare lento, 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 ma noi che le sappiamo prigioniere non le possiamo liberare come le onde dal mare, come le stelle dal mare, come le onde dal mare. Al mare.
Voilà, et cette émission, bah, je vous le dis tout de suite, hein, vous pourrez la réécouter en podcast, tout comme celle de la semaine dernière et puis celle de la saison, de la saison précédente, hein, toutes celles que vous n'avez pas pu entendre et puis écouter. On devait justement avoir un invité la semaine dernière qui, pour nous aider donc, et nous accompagner sur les grands moments sportifs sur lesquels on était revenus. Manque de chance, il s'est cassé la jambe le matin même, le tibia, en jouant au foot. Donc, on l'excuse. Et puis, bah, on aura l'occasion de le revoir d'ici à peu près 3 à 4 mois. On va le laisser donc se rétablir. C'était le FC Viking, un des représentants donc, du FC Viking. Alors, Eman, cette saison, elle se présente comment ? 2022-2023, tout va bien ? Alors, il y a eu le forum des associations. Ouais. Mon Paris FM y était, Valentin.
Gros succès.
Hein. Ouais, ouais. Gros succès.
Gros succès au niveau des inscriptions dans les clubs sportifs de l'arrondissement. Donc je suis vraiment très très content. Mm-hmm. On sent en tout cas un réel retour à la normale, l'après-Covid. Quoi. Ouf, exactement. Ouf, donc les gens reprennent confiance dans la pratique sportive. Mm-hmm. Donc ça fait vraiment du bien et c'est très encourageant. Et puis, sur plusieurs sujets, hein, que ce soit sur la santé, le moral, juste pratiquer une activité physique, c'est sain, quoi. Donc, faut y aller. Et puis, on a des super clubs, plus de 70 clubs qui étaient présents.
70 clubs.
Ouais, plus de 70 clubs qui étaient présents. Et encore, c'était pas l'entièreté des clubs de l'arrondissement. Ouais. Donc, franchement, beau succès. Et puis, je crois aussi qu'on a un bon club qui a participé aussi. À ce forum qui est avec nous ce soir. Donc,
Donc c'est un des représentants du Paris 13, hein, Fosco, c'est ça hein,
oui, bonsoir.
Perinti. Fosco, comment vous abordez cette nouvelle saison ?
Cette nouvelle saison, nous l'espérons très dynamique. Nous avons eu une excellente saison l'année dernière. Juste pour vous donner quelques chiffres. C'est un club important, Paris 13 Tennis de Table.
Pour tout vous dire, quand j'ai eu Eman au téléphone, je lui ai dit tu seras avec le Paris Tennis de Table 13. Il m'a dit c'est super, c'est un super club. C'est vrai.
Eman nous connaît bien et la mairie du 13e nous soutient énormément. Mmh. Donc, je suis très content d'être là ce soir avec lui. Donc je disais que notre club, après les deux années que tous les clubs ont connues, mais cela dit, je dois dire que pendant la période Covid, beaucoup de structures étaient fermées, mais nous avons continué.
Comme beaucoup de clubs, on en avait parlé avec Eman en février dernier. Beaucoup, ça a été la force du sport d'avoir créé certaines choses, beaucoup d'initiatives, même à travers les réseaux sociaux. Hein.
Alors, nous avons continué même à pratiquer le tennis de table.
Comment vous avez fait dans les garages chez vous, non ?
Non. Ça, on en parlera une autre fois. Ouais. des salles clandestines de tennis de table. Non, nous avons continué avec les personnes qui pouvaient continuer, c'est-à-dire les personnes qui porteurs de handicap, donc les personnes qui avaient des prescriptions médicales, avec les sportifs de haut niveau. Nous avons même organisé un stage Noël 2021 avec une douzaine de sportifs, handisport. Et ça, c'était vraiment extraordinaire parce que ces personnes, leur club respectif était fermé. Donc, nous avons été vraiment très heureux de les accueillir. Et puis... l'année dernière, 2021, il y a eu des petits sursauts. Tantôt, il y avait des jeunes qui revenaient. Après, ils étaient. Après, il y en avait un peu moins, etc. Ouais. Mais 2021-2022, vraiment, c'était extraordinaire parce qu'on a retrouvé nos adhérents et on a retrouvé un élan incroyable qui a fait qu'en fin de saison, nous étions... en toute modestie, le plus grand club de tennis de table en France en termes d'adhérents, puisque nous avons touché les...
Plus important que des clubs comme le Valois, tout ça, qui sont quand même...
En termes d'adhérents, c'est vrai que le Valois, c'était notre référence. On disait, on va les rattraper. Nous les avons rattrapés, nous les avons dépassés, notamment avec quelques activités dont je vais parler ensuite. Mmh. Mais 560 adhérents. Il faut savoir qu'ils ne sont pas tous licenciés dans notre club parce que nous accueillons aussi des personnes qui aiment beaucoup venir à la salle spécifique Carpentier. Ouais. Donc, ce sont des personnes qui jouent dans d'autres clubs, mais Accueille parce qu'ils deviennent adhérents, bien sûr, externes. Et donc, c'est souvent des joueurs d'un bon niveau. Et donc, c'est très intéressant pour nos joueurs, pour nos adhérents, de les rencontrer, etc. Donc, avec eux, ils sont une trentaine. 560 adhérents, c'était... D'accord. On n'avait jamais eu autant.
Et là, donc le 19 septembre 2022, vous êtes combien ? Après le forum des associations.
Là, on est près de 300. Et nous avons encore un certain nombre de dossiers qui nous devons enregistrer. D'ailleurs, on est un peu dépassé. Donc, on va continuer parce que on doit juste prendre un peu le temps de distribuer dans tous les créneaux. Il ne faut pas que on fait une toute petite pause de quelques jours, mais après on reprendra les inscriptions parce que voilà, tout le monde doit avoir trouvé sa place. Ouais. Alors il y a différentes catégories.
Oui, alors justement, on va en parler, mais ça veut dire que les inscriptions ne sont pas closes. On peut continuer à venir s'inscrire, et si oui, comment ?
Alors, actuellement, présentement, au jour, là, à cette heure-ci...
Par Internet, sur le site du club,
aussi, mais
on vient un soir au gymnase.
La meilleure des façons, c'est de venir au gymnase, absolument, et même de faire une séance test.
Donc, que Carpentier, que gymnase Carpentier, ou il y en a d'autres ?
Alors, nous en avons deux, mais disons que celui où il y a les séances d'entraînement et où on est accueilli vraiment par des responsables, par des entraîneurs, c'est la salle spécifique de tennis de table qui se trouve dans l'enceinte du centre sportif Georges Carpentier.
D'accord.
Il y a une entrée, disons, dédiée qui est sur l'avenue de la Porte d'Ivry, très simple, au pied du tram ou du métro. Et donc là, très souvent, le soir, soit les entraîneurs, soit des responsables sont là pour vous renseigner, pour vous accueillir, pour savoir où vous en êtes. Ils commencent à jouer et on voit un peu leur niveau. Et puis, ils trouvent naturellement leur place. Et nous, on fait en sorte aussi de les aider. Parce que quand on arrive dans un endroit, il y a beaucoup de monde, on peut être impressionné, on peut avoir du mal à se frayer un chemin, dire mais avec qui je vais jouer, mais si je suis tout seul, comment je fais, etc. C'est très simple, vous êtes là, et puis nous, on dit, tiens, monsieur, madame, ce jeune, pourquoi tu ne joues pas un petit peu avec lui, et tout, et voilà. Et de cette manière, on s'intègre, et puis c'est très facile, le tennis de table.
Et ça, c'est 5 jours sur 7.
Alors, nous sommes à la salle spécifique Carpentier 6 jours sur 7.
6 en plus.
Parce que c'est du lundi après-midi, du lundi midi même, au samedi matin, 14h. Et le samedi et le dimanche, nous avons une deuxième salle qui est au gymnase Blanqui, où nous avons de larges créneaux. Où là, c'est évidemment un peu plus petit. Au gymnase Blanqui, nous avons actuellement 6 tables de ping-pong. Alors qu'à la salle spécifique, nous en avons 24. Donc, c'est la seule salle spécifique à Paris. Merci beaucoup à la mairie du 13.
Encore
merci
une fois du 13e, quand même. Hein. Encore une fois du 13e, quand même, faut le dire. Hein.
Bah oui,
c'est pas de chauvin, mais c'est vrai que c'est.
Voilà. Non, mais on a des pépites comme ça. Donc, c'est cool.
Donc, voilà, on a une offre vraiment très large. Donc, on peut trouver. Qu'on ait envie d'en faire juste pour loisir, pour faire de la compétition à petit niveau. Les gens qui viennent nous voir, ils se disent « Ah, j'ai joué il y a longtemps, mais j'ai envie de m'y remettre. » Et tout, c'est... En fait, je pense que le tennis de table, quand même, touche et a touché et a rencontré 99,9% de la population. Alors, un jour ou l'autre.
Ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment vous êtes... tomber dedans, vous.
Et ben, moi,
l'homme de l'Italie, l'homme du pays du foot.
Moi, ça ne fait pas très très longtemps. En fait, je ne suis pas un des plus anciens. Il y a des membres qui sont là depuis 20-30 ans. Et moi, il y a 5 ans environ, avec un ami, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire comme sport, etc. Moi, j'avais joué au tennis, j'avais joué au foot, j'avais fait de l'athlétisme quand j'étais jeune. J'ai un diplôme d'éducateur sportif en Italie, etc. Et donc, on a pensé, parce qu'il habitait juste en face, cet ami, d'aller voir le tennis de table.
Ouais.
Nous sommes allés. Et puis, il n'est plus jamais revenu. Voilà. Et moi, je me suis inscrit et j'ai adoré. Et j'ai pris un grand plaisir. Voilà.
Et puis c'est bien parce que vous dites tennis de table. Hein. Il y a une différence, c'est pas ping-pong. Hein. Ping-pong, c'est ce qu'on joue comme ça le dimanche midi après avoir mangé, alors, tranquille dans le jardin. Tennis de table, c'est autre chose. Hein.
Je vous rassure, en fait.
Ouais, ouais. Non, mais parce que beaucoup font la confusion. Hein. Ouais.
Mais on accepte le ping-pong sans problème. Et même, on fait plus court, on dit du ping.
Oui.
Et en fait, les joueurs, même les grands joueurs, ils disent voilà. On fait du ping et puis on tape la balle et puis enfin on n'est pas, je veux dire, officiellement c'est oui le tennis de table, mais
alors justement les tranches d'âge, ça se répartit comment actuellement? Vous avez beaucoup de jeunes?
On a beaucoup de jeunes. Oui. En fait, on accueille des jeunes à partir de 4-5 ans.
Oh là là, 4 ans, 5 ans.
Voilà.
La table,
oui, la table, ouais. ils la voient. Enfin, ouais. Ils arrivent à peine à la dépasser avec la tête, mais évidemment, on commence pas en faisant des matchs, etc. Ouais. Il y a des jeux
oui,
d'équilibre.
Il faut rendre le sport ludique, quoi.
De toute façon,
c'est l'initiation.
C'est le premier
contact avec le sport. Ouais. Et on le voit dans plusieurs pratiques sportives. On a le tennis de table, on a aussi le judo, du baby judo, on appelle ça comme ça. Ouais. Donc, c'est un premier contact en tout cas vers le sport et. La balle ou le ballon ou la raquette ou avec le tatami, c'est bouger d'abord et apprendre les premiers gestes et voilà.
Et donc nous on a des créneaux baby ping de 4 à 6 ans. Et puis ça va jusqu'à plus de 80 ans. Il y a des personnes qui ont 85.
Alors justement, une question que j'ai toujours demandé quand on parle de tennis de table, on court combien de kilomètres? On perd beaucoup de poids dans un match?
On peut perdre, enfin les matchs.
Ce crétin avait dit un jour qu'il avait couru un semi-marathon.
Oui, ouais, c'est possible. C'est vrai, hein. On ne court pas vraiment, mais on se déplace beaucoup. Ouais. On est toujours en mouvement. Et on peut perdre des calories et du poids.
Oui,
il faut dire que c'est surtout aux entraînements. Hein. Les matchs, en fait, depuis que les règles ont changé, ils ne durent pas si longtemps.
Alors
que ça.
Parlez-nous de ces règles, si les gens ne le savent pas, ni tous les.
Oui, on
les
ne joue plus
règles.
En 21 points.
Oui.
Mais ça fait plus de 10 ans. Hein,
oui.
Donc, on ne joue pas. On joue en 11 points, des 7 ou 11 points, évidemment avec 2 points d'écart. En général, au petit niveau, 3-7 gagnants. Mais voilà.
Et pourquoi on a changé ces règles?
Alors, j'y étais pas. Je ne peux pas vous le raconter, mais par exemple, je pense que c'était pour alléger, pour fluidifier les matchs, pour qu'ils ne durent pas très longtemps. On a aussi changé, pensez bien, les dimensions de la balle. Mm-hmm. Parce qu'en fait, elle faisait 38 mm de diamètre. Et visiblement, ça allait trop vite. Et même pour les rediffusions à la télévision,
oui, parce que c'est une question que j'allais poser aussi. Ça part à combien, un service au tennis de table?
Ça va très vite. C'est un des sports.
Oui.
C'est un des sports où ça va le plus vite. Ouais. Et j'ai entendu dire que effectivement, c'était aussi une façon de le rendre plus accessible. Mmh. En le rendant plus visible. Et donc, ils ont augmenté de 2 mm. Mmh. Donc, la balle est un peu plus lourde.
Voilà.
Et ça va un peu moins vite.
Et puis, il y a aussi la raquette qui a changé.
Les raquettes, elles évoluent sans cesse. Ouais. Évidemment, il y a les revêtements, les bois. Après, il y a des natures différentes, il y a des prises différentes, mais les revêtements, ça peut, il y a des revêtements pour les défenseurs avec des revêtements inversés. On appelle ça des picots.
Ouais. Vous savez ce que vous pourriez faire? C'est un tournoi des élus. Ça serait sympa. Une belle promotion, une belle promo.
Figurez-vous que
moi je sais.
Vous êtes médaille d'argent parce que on y a déjà pensé. J'ai testé les intentions de plusieurs élus.
Oui.
Et ils sont tous
à
fond, partant pour organiser ça. Donc on va voir si cet hiver, quand on aura envie de se réchauffer un peu. On fera. D'ailleurs, on a participé avec, et on a soutenu parce que il y a des initiatives extraordinaires dans d'autres arrondissements de Paris.
Ouais.
Et nous avons participé avec des joueurs à un tournoi qui s'est déroulé dans la salle des fêtes de la mairie du 15e arrondissement. Et donc de là, le pas dans ma petite tête d'organiser un tournoi dans différentes mairies et notamment avec des élus qui sont passionnés de sport, qui suivent, etc. Mais ils n'ont pas forcément le temps. On acceptera même des élus en costard-cravate, s'il le faut, mais ouais. On les fera jouer, c'est sûr.
Et puis, vous participez aussi à d'autres actions caritatives, par exemple pour le Téléthon.
Alors, le Téléthon, on l'a fait, mais on ne l'a pas fait depuis quelques années. Mais vous faites bien d'en parler. Enfin, nos actions sont très ouvertes. C'est vraiment le tennis de table pour tous, le ping pour tous. Et donc, nous avons eu l'occasion pendant le confinement. Il y a un organisme, une association qui nous tient particulièrement à cœur dans le 13e arrondissement, qui est l'Ami de Pain, qui a différents foyers. Et nous les avons rencontrés parce que juste avant, nous avions accueilli un résident qui d'origine roumaine qui voulait refaire du ping-pong. Il en avait fait quand il était plus jeune. Et un jour, je reçois un appel d'un travailleur social de l'Ami de Pain qui me dit, voilà, il y a une personne qui voudrait venir. Est-ce que c'est possible? Je dis, évidemment, les portes sont ouvertes. Il est venu, il est passé plusieurs mois, tous les samedis matins, il est venu s'entraîner. On a trouvé une raquette, on a trouvé des chaussures. C'était vraiment magnifique. Et grâce à ce contact, pendant le confinement, nous avons été plusieurs. Nous sommes allés faire du bénévolat là-bas. Et en fait, très rapidement, on a eu envie de les inviter à nouveau, à plusieurs. On a apporté des tables à l'Ami de Pain, rue Charles Fourier. On les a laissés là-bas. Donc, on y allait régulièrement, une fois par semaine. Comme ça, on a participé à la fête de l'association. On a participé à la fête de l'association dans un autre arrondissement où résident les femmes. Et donc là, tout récemment, nous avons présenté un appel à projet qui s'appelle Impact 2024, que nous avons obtenu, que nous avons gagné.
Oui. Ils étaient venus nous en parler, le fonds de dotation de Paris 2024. Ils étaient venus nous parler justement de ces actions qu'ils faisaient donc, à travers
l'inclusion par le
sport. Projet. Ouais,
voilà. Donc 2024. Là, nous irons très souvent.
Surtout qu'il y a Jean-Philippe Gasset en plus, qu'on connaît bien. Donc.
Voilà. Oui. Donc c'est un axe important qui puis voilà, avec d'autres évidemment la performance, la haute performance pour nos joueurs, parce que nous avons des joueurs de talent qui ont gagné plusieurs médailles au championnat de France, etc.
Alors, justement, c'est facile de coordonner ces gens qui viennent pour les loisirs et puis ceux qui sont un petit peu plus versés vers la compétition, parce que voilà, il faut harmoniser toutes les demandes.
Bien sûr, il y a des attentes différentes. Forcément, on est très nombreux dans une très grande salle, mais malgré tout, on est un peu à l'étroit. Mais on travaille sur ça avec les élus, avec tous ceux qui veulent réfléchir avec nous. Et parce que la cohabitation, en plus il n'y a pas que nous, il y a deux autres clubs, nous avons les écoles, nous accueillons les épreuves du bac, parfois il y a des manifestations d'autres associations, donc on est sollicité par des comités d'entreprise, ça fait beaucoup d'activités, c'est pas évident de toutes les concilier. Mais je crois que Ayman veut dire quelque chose.
Non mais on y travaille. Enfin, c'est vrai que ça a toujours été le grand problème, en tout cas à Paris, mais aussi dans les autres villes. Mais à Paris spécifiquement, je parle du 13e par exemple. On est l'arrondissement qui possède le plus d'équipements sportifs, mais ça reste quand même exigu au niveau des créneaux. On n'en a pas assez, il en faut toujours plus. Il faut toujours plus d'équipements sportifs, des équipements de proximité. Donc, on en a pas mal, mais on a 9% de surface sportive dans le 13e, ce qui est, on est l'arrondissement le mieux doté, mais c'est pas assez, quoi. On essaye de...
De son succès.
Victime de son succès, mais victime surtout du succès des clubs, de Fosco, qui font un vrai travail sur divers sujets. Donc, on a le social, mais on a d'autres sujets. Par exemple, parler du public des enfants en bas âge, en très bas âge, les familles... le sport santé, la pratique féminine aussi, développer la pratique féminine.
C'est une question que j'allais poser. Il y a beaucoup de jeunes filles, jeunes femmes qui jouent au tennis de table.
Alors, la moyenne nationale n'est pas très importante. Enfin, souvent, c'est autour du 10-15%. L'année dernière, c'était vraiment extraordinaire. Avec cet élan, ce bel élan d'après Covid, nous avons eu 80 féminine, 80 sur 500 et quelques. Donc c'était pas tout à fait 20%, mais nous avons battu tous nos records quoi. Là aussi, donc il y a des petites filles qui ont 4-5 ans et puis des femmes, des seniors qui ont pas loin de 80 ans. On les salue et on veut continuer à développer ça parce que c'est un de nos engagements. Avec les élus qui nous soutiennent.
Parce qu'on a une convention en fait avec plusieurs clubs et notamment le Paris 13 tennis de table qu'on soutient financièrement et la contrepartie un petit peu c'est d'atteindre certains objectifs, donc on appelle ça des conventions pluriannuelles d'objectifs et donc développer la pratique féminine en fait partie. Donc voilà.
Donc y a des soirées dédiées aux féminines. Nous allons souvent quand il y a par exemple la fête des familles, le tournoi des familles, etc. Nous essayons d'inclure les mamans les grandes sœurs qui accompagnent. C'est des moments festifs, mais c'est aussi l'occasion pour qu'elles découvrent que c'est un sport accessible, que c'est... Moi, ça m'est arrivé de qu'il y ait des mamans qui sont dans les tribunes et sincèrement qui s'ennuient un petit peu.
Qui descendent et qui viennent jouer.
Mais absolument. Moi, je fais ça et je les invite. Au bout de 2, 3, 4 tentatives, on y arrive. Et après, elles se disent « Ah bah oui, mais... En fait, je suis pas si nul que ça.
Ouais, c'est un sport qui coûte cher, c'est important quand même.
Je ne pense pas.
La licence.
Alors, l'adhésion dans notre club coûte 200 euros par an. C'est, environ 17-18 euros par mois. Oui. Parce que, en fait, pendant 10 mois, nous proposons évidemment des séances dirigées avec des entraîneurs, des créneaux de jeu libres, nombreuses activités, des tournois internes. Et aussi, pendant l'été, il y a une manifestation qui s'appelle Ping-Ong-Tong, donc qui prolonge la saison et qui continue en juillet et août. Alors, à cette occasion, nous accueillons aussi des joueurs externes. Chose que nous ne faisons pas forcément pendant l'année, parce que sinon on devrait sacrifier nos adhérents. Mais donc ça veut dire que pendant 12 mois, 200 euros, c'est oui. Et à ça, il faut ajouter la licence, soit la licence loisir qui est pour les adultes. Enfin, celle-là, elle peut varier d'une année à l'autre. En général, elle peut augmenter d'un euro ou deux. Aujourd'hui, elle est de 15 euros. Donc voilà. Après, il y a par exemple, les personnes qui sont reconnus par la MDPH bénéficient évidemment d'un tarif préférentiel qui est moitié prix, etc.
Et puis il existe plein d'aides aussi. On peut le rappeler. Il y a les 50 euros de l'État à chaque rentrée. Il y a aussi les bons CAF. Des aides aussi de la ville de Paris au niveau départemental. Et finalement, c'est ça qui est bien, c'est que du coup, ça rend le sport vraiment encore plus accessible parce qu'on a des prix d'adhésion comme au Paris 13 tennis de table qui sont vraiment très bas et très compétitifs. Et parallèlement, on a aussi beaucoup d'aide aussi pour aider les familles, les personnes tout simplement. Et donc, ça devient peanuts en fait de pouvoir faire du sport à Paris. Donc, c'est vraiment bien.
Oui, parce qu'une raquette, ça coûte combien ?
Alors, une raquette...
Le club, il ne fournit pas. C'est le pratiquant ou la pratiquante qui a sa raquette.
Voilà. Disons qu'on en prête quand quelqu'un arrive et qu'il n'est pas équipé. Et ça peut durer 2 ou 3 séances. Après, il doit s'équiper. Une raquette, c'est à partir de 25-30 euros.
Et une raquette pour une saison ou pour en avoir plusieurs ? Parce qu'il y a peut-être un côté fétichiste aussi.
Oui, alors ce qui se passe...
Il y en a qui portent un short, il y en a un mois.
Bien sûr. Alors, ce qui se passe, c'est que souvent, la raquette est composé du bois, de lame, de la raquette, et puis les revêtements, en caoutchouc avec des mousses différentes, et c'est là elle s'use. Donc, donc, mais il y a des personnes qui jouent avec la même raquette et les mêmes revêtements parce qu'ils n'ont pas aussi une exigence de, d'effet, de performance, etc. depuis 5-10 ans. Sinon quelqu'un qui s'entraîne régulièrement, il y en a qui, au bout de 3 mois, changent les revêtements. Alors, les revêtements, ça peut aller de 10-15 euros. Donc par face jusqu'à 50 par face, mais ça on parle vraiment du haut niveau qui peut consommer plusieurs plaques en une saison.
Et les équipements, bon, faut une paire de tennis, il y a un règlement strict pour jouer au tennis de table.
Alors
on peut pas jouer en jean, on peut pas jouer.
Alors ça, on déconseille, mais ouais, on peut pas l'interdire. Oui. Ah bon, c'est sûr ouais, que pour jouer en loisir, parfois il y a des personnes qui arrivent un peu, voilà, on se dit mais c'est pas une tenue de sport ça. Mais on va pas, parce que du moment que c'est un pantalon confortable, je veux dire, pour ces personnes qui sont à l'aise, pour nous ça nous va. Mais évidemment short ou survêtement, etc. Alors une chose importante, c'est vraiment les chaussures, parce que nous avons la chance d'avoir un équipement vraiment de très haut niveau, notre salle, mais il faut le respecter. Donc par exemple, il y a eu des travaux importants il y a 3 ans et on a changé complètement le revêtement du sol. Donc c'est un revêtement spécifique du Gerflor, c'est une marque mais on finit par l'appeler comme ça. Et donc lui, il ne supporte pas par exemple qu'on joue avec des chaussures avec lesquelles on marche dans la rue. Donc vraiment on surveille, on fait attention que tout le monde arrive à la salle et chausse des chaussures de sport en salle pour cette pratique. Alors certains râlent un peu parce qu'il faut les transporter. Donc si on avait de la place, peut-être qu'on ferait des casiers pour où on puisse les laisser, mais ça c'est la chose vraiment la plus importante. Et pour le reste, non, c'est très simple, il y a des tenues très... Ouais. Après, pour les matchs, non,
alors justement,
il faut un maillot.
Les couleurs du club?
Il n'y a pas de couleur officielle, mais disons que depuis longtemps, le bleu est une des couleurs dominantes.
Faut prendre l'emblème
ce bleu. Alors il y a du bleu et souvent du noir. Il peut y avoir des couleurs secondaires, mais le bleu est une couleur qui revient souvent.
Alors on va rappeler qu'il y a des classements et des compétitions individuelles et des compétitions par équipe. Il y a des classements type tennis ou golf.
Alors là aussi, par rapport à il y a quelques années, si les auditeurs se souviennent des classements, ça a changé depuis X années. Et donc aujourd'hui, quand vous arrivez dans un club et vous licenciez, vous avez une dotation de départ, ce sont 500 points. Voilà,
D'accord.
500 points. Et avec ça, vous pouvez, évidemment, si vous faites des compétitions officielles, vous pouvez en perdre un tout petit peu. Mais quand vous avez 500 points, en général, vous en perdez. Parce qu'en fait, tout dépend du classement de la personne que vous avez en face de vous.
C'est ça,
donc
ouais,
vous pouvez faire des perfs si vous battez un 600 ou un 700 ou un 1000, par exemple. Et là, vous gagnez un max de points. Et vous en perdez très peu quand vous êtes battu, parce que c'est une défaite normale, ce qu'on appelle. Et voilà, ainsi de suite. Moi, en 5 ans, je suis passé de 500 à 830, 840. C'est pas mal, mais voilà. Après, il y a des jeunes qui, en une saison, ils gagnent des centaines et des centaines de points.
D'accord. Allez, on écoute la deuxième pause musicale. Richard Cosciente, Roberto Rappelli. Puis ensuite, on va parler des autres associations sportives sur Paris 13. On y va.
Ne m'en voulez pas trop. Si ce soir je rentre chez moi, j'ai tellement de choses à faire avant que le jour se lève. Et pendant qu'elle dormira, moi je lui construirai des rêves pour que plus jamais au réveil elle ne se lève les yeux en pleurs.
et pour que cette longue nuit ne soit plus jamais noire et profonde, je demanderai à la lune de remplir le ciel tout entier, et pour que je puisse encore la voir, le sourire comme avant, je demanderai au soleil de brûler, même en plein hiver. Et pour qu'elle puisse encore chanter les chansons de notre bohème, je construirai un silence plus grand que ceux des cathédrales. J'irai réveiller les amants, je parlerai des heures entières, et je sais qu'ils me suivront tant que nous resterons amants. Alors on se promènera tous ensemble, on dansera d'incroyables sarabandes, et elle oubliera sa peine, et pour que la ville danse, et pour que la ville chante, on inventera des couleurs, et elle oubliera ses larmes. Nous irons dans les campagnes pour cueillir les fleurs des champs, pour faire un grand lit blanc où l'on s'aime tendrement, et puis nous irons au fond du ciel pour lui choisir une étoile, parce que Marguerite est bonne, que Marguerite est belle, parce que Marguerite est vraie, parce que Marguerite est douce, parce que Marguerite m'aime, moi je ne vis que pour elle. Marguerite est ma raison, mon lendemain. Parce que Marguerite est celle que je veux toujours près de moi. Marguerite est Marguerite, Marguerite est tout pour moi.
Alors, Fosco, il ne faut pas oublier le sport loisir avant de donner la parole à Ayman, le sport santé. Sport,
absolument. Sport je suis particulièrement fier voilà, de terminer cette petite présentation de notre club en disant que depuis quelques mois, nous avons démarré des séances pour, de sport santé pour des personnes malades de la maladie de Parkinson. Et c'était vraiment extraordinaire parce que nous étions prêts pour démarrer un créneau en collaboration avec France Alzheimer, bon, qui a été ralenti pour un certain nombre de raisons, mais nous avions les éducateurs, nous avions le créneau que nous avions obtenu, et quand on a été sollicité par la fédération et par France Parkinson, on a dit bingo, on y va. Et en 15 jours, on a commencé avec un groupe d'une dizaine de personnes, et c'est vraiment magnifique de voir comment, parce que le tennis de table, vraiment, pour les maladies neurovégétatives, etc., a par ce qu'il apporte en termes de concentration, de coordination, etc., et sans oublier la socialisation, est vraiment bienfaisant. Donc voilà, nous sommes très engagés pour le sport santé, pour le sport pour les seniors. D'ailleurs, nous voulons en faire dans notre salle, nous voulons en faire à l'extérieur. Nous avons participé à un appel à projet. J'espère que bientôt, vous racontez tout ce qu'on met en place pour accueillir voilà, les Parisiens et les habitants du 13e.
Bah, vous viendrez en parler. Hein,
très okay. Volontiers.
Alors, Eman, en dehors donc, du tennis de table, beaucoup de projets pour 2022-2023. Naturellement, on va commencer par la réfection du stade Boutroux. Hein. Oui. Alors, Eman, vous êtes allé donc à Bauer la semaine dernière.
Tout à fait.
Vous êtes inspiré un peu de Bauer. Qu'est-ce qu'il faut remettre aux normes ?
Complètement. Bon, oui. Il y a beaucoup de choses. Hein. Déjà, le niveau national, c'est un certain niveau.
Eh oui.
Donc, ça veut dire qu'il y a une certaine exigence aussi au niveau du standing, de l'équipement sportif accueil. Et donc, bon, Boutroux, on part de loin, faut le dire. Voilà, je le sais. C'est pour ça que j'ai mis pas mal d'argent, en tout cas, d'investissement pour de bons travaux l'an prochain, en 2023, pour Boutroux, le stade Boutroux. Plus de 220 000 euros quand même.
Ouais, c'est pas rien.
J'étais pas plus tard que vendredi dernier au stade Boutroux pour passer la commission de la Fédération française de football pour homologuer le terrain pour le niveau national. Je remercie à nouveau la fédération d'avoir validé.
Bon, ils ont des petits problèmes actuellement, mais enfin bon.
Oui. Mais après, enfin bon. Voilà, ouais, c'est ouais. L'Atlético a toujours été un petit peu le petit pousset de chaque championnat et là ça l'est encore et donc avec son même malgré que ce soit le plus petit budget, ils font des exploits sportifs et on se doit quand même au bout d'un moment de les accompagner. Et de faire des efforts, donc c'est ce que l'on fait maintenant et donc on l'assume pleinement et donc voilà, on a fait quelques aménagements déjà hein, pour que ce soit mis aux normes.
Alors c'est quoi, on va avoir des nouvelles tribunes?
Alors pour le moment non, pas encore.
Combien de places?
C'est toujours le même nombre de tribunes, mais par contre au niveau de l'accueil, la jauge a été augmentée.
Ouais.
Et puis il y a la partie visiteur en tout cas qui a été sécurisée aussi. Il y aura une buvette aussi pour les visiteurs, des toilettes, une nacelle évidemment pour filmer le match parce que ça fait partie des normes.
Oui. Canal peut venir. Hein.
Exactement. Oui. Canal peut venir. Quand ils ont joué face au Red Star, ça a été diffusé sur Canal. Ce sont tous ces aménagements-là. Donc, il y en aura d'autres qui vont venir l'an prochain et encore après, parce que je compte mettre sur la table une certaine somme d'argent, en tout cas en investissement pour faire des travaux.
Quel que soit le résultat,
parce que ce club le mérite. C'est le premier club de France en nombre de licenciés, plus de 1600 quand même. Ce n'est pas rien. Et puis, il suffit juste de se balader dans le 13e. On croise très régulièrement
des maillots
avec l'Atlético, enfin le logo de l'Atlético dessus. Donc moi, ça me semble normal. Voilà. C'est ce qu'on fait avec le maire du 13e. C'est ce qu'on va faire et continue à faire. Et puis. Avec ça, on a évidemment certains matchs qui vont se jouer à Charletti, les grands matchs, les têtes d'affiche, hein, donc le Red Star, Châteauroux, Versailles, tous ces matchs-là se feront à Charletti.
Boutroux, on pourra y jouer à partir de quand?
Dès le prochain match, donc le 23.
Ah d'accord. Ok, ouais. Ça y est, Charletti, enfin j'allais dire, ça sera que pour les grands matchs, quoi.
Exactement.
D'accord, ok, bon, tu iras t'asseoir dans les tribunes les tribunes de presse en plus.
Et j'avais une petite question, vous parlez des investissements, c'est très intéressant. On sait que du coup le Paris Atlético est le dernier budget de national. Qu'est-ce que ça représente, une arrivée en national pour un club aussi petit financièrement?
C'est la question, faut la poser au président du club, mais après je peux y répondre aussi un petit peu dans le sens où moi je m'y attendais, je l'avais un peu anticipé avec le maire du 13e et puis c'est pourquoi on a augmenté leurs subventions. Déjà on leur donne je me souviens bien on leur donnait 110 000 euros par an et là on a augmenté à plus de 140 000 euros. C'est peut-être léger mais c'est une augmentation progressive et on s'est engagé à le faire Donc,
oui,
voilà.
Parce que ça sert au déplacement. Hein. On le déplace beaucoup plus loin. On peut aller jouer en Corse, on peut aller jouer.
Oui, et puis au-delà de ça
Bretagne,
aussi, c'est un club qui. On n'est pas le Qatar, la ville de Paris, pour faire un comparatif avec le PSG. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au-delà de ça, en fait, on a le sport en lui-même, le football, où ils font un super travail, mais aussi un travail social qu'ils font. Avec tous leurs éducateurs. On s'en parlait juste avant l'émission, c'est un club de quartier de base. Et tout le monde connaît les Gobelins, les appelait comme ça. On les appelle toujours comme ça. Ils font toujours ce travail-là qui est très qualitatif. On en est très fiers et on continuera toujours à les soutenir.
Et puis, Charletti, Boutroux. Et puis, il y a d'autres aussi sites sportifs. Carpentier, par exemple, pour le basket, qui va rester un an et qui va s'en aller après, malheureusement.
Alors, le Paris Basketball, qui est actuellement qui est domicilié à la Halle Carpentier. Donc oui, ils vont se déménager à la nouvelle Arena de la Chapelle, qui sera un site olympique pour 2024. Mmh. Et c'est dommage pour nous, mais... on a un beau projet en perspective, là, notamment de refaire un terrain de basket au centre sportif Charles Moureux, en partenariat avec un de leurs investisseurs, sponsor, qui s'appelle Snipes, que je porte aujourd'hui. Ce sera un terrain de basket fait avec une œuvre de street art au sol, parce que, évidemment, c'est l'identité du 13e, le street art. Ce sera en hommage aussi à Amarassi, qui est un grand joueur du Paris Basketball et qui est maintenant responsable sportif au sein du club.
D'accord. Alors justement, on parlait des partenaires. Est-ce que pour le Paris Atlético, il pourrait y avoir certains mécènes là, si on nous écoute ce soir, allez-y. Ray, il est bien rentré au Paris FC. Non mais allez-y. Venez frapper à la porte de notre ami.
Oui, venez, venez.
Eman,
vous êtes les bienvenus.
Voilà, c'est ça.
Oui, complètement. Et puis même au-delà de ça, on essaie vraiment toujours d'améliorer les conditions de faire du sport pour les clubs. Il n'y a pas que le foot et le basket, évidemment.
Il y a le volley aussi. Donc eux, ils jouent dans les installations du PUC à Charpie là-bas.
Oui, toujours à Charpie, oui, tout à fait.
Qu'on a reçu aussi. Il y a d'autres salles, parce que c'est vrai qu'il faut se partager, le roller hockey, les sports de combat.
Oui, le roller hockey, on en a juste à côté du studio, au gymnase Marcel Cerdan. Les Corsaires, précisément, qui est un très bon club aussi, qui est aussi en convention avec nous, la ville de Paris, qui ont des objectifs comme le Paris 13 tennis de table et qui les remplissent très bien. Donc franchement, on a un très bon maillage. Et puis même en termes d'équipement sportif, je suis très content de l'annoncer ici, mais on va avoir un nouveau gymnase dans le 13e, une création de gymnase. Les travaux débuteront l'an prochain, en 2023, pour une livraison fin 2023, début 2024.
Et ça,
donc,
ça servira. Alors justement, j'allais dire, est-ce que les JO aussi, ça incite pas à améliorer un petit peu ces structures?
Alors oui, parce qu'il y a des financements qui permettent d'aider dans le cadre de cette route vers les JO, notamment par l'Agence nationale du sport, qui finance en partie plusieurs projets. On a les fameux 5000 équipements sportifs qui sont financés en partie par l'ANS, donc par l'État. Le reste est financé évidemment par les collectivités, donc les mairies ou les régions. Et puis, c'est le cas pour certains de nos équipements. Je pense notamment, on le fait aussi en lien avec la Fédération française de basketball. On a livré un terrain de basket 3-3 sous le métro aérien Boulevard Blanqui, qui est très beau. Qui est aussi une œuvre de street art, Boulevard Blanqui, Boulevard Vincent Auriol, pardon. Et donc, il y en aura un autre qui devrait arriver aussi en 2023 dans le centre sportif Charles Moureux que je citais tout à l'heure. Mais ça, c'est un autre terrain de basket. Donc, on aura deux nouveaux et beaux terrains de basket.
Il y a des nouveaux sports qui arrivent sur le 13e.
Alors oui, on entend beaucoup de choses. On entend du paddle, on entend du beach volley. Donc voilà, on est en train de réfléchir là-dessus pour des nouvelles pratiques sportives. Les clubs m'en parlent pas mal au quotidien. Je pense notamment au PUC qui a une section volley, tu le disais tout à l'heure, et qui aimerait commencer à développer le beach volley parce qu'on a très peu de terrain à Paris. Mais ça fait partie aussi de l'identité du 13e au niveau du sport, c'est-à-dire qu'on a tout ce vivier-là avec des sports assez, entre guillemets, atypiques, en tout cas hors du commun, que les sports classiques. On a par exemple sur le site de Carpentier du golf.
On les a reçus aussi l'année dernière.
Je sais bien, ouais, j'avais écouté l'émission. Ouais. On essaye de rester là-dedans et d'être un peu aussi dans l'innovation quelque part.
Et puis il va y avoir aussi pour cette saison 2022-2023 beaucoup d'initiatives de la part donc du 13e pour favoriser le sport et pour accompagner les grands événements sportifs. Par exemple, le prochain mondial.
Oui, prochain mondial, on a un événement qui va se dérouler à la fin de l'année, notamment pour... Enfin, on va faire une fan zone à Carpentier. On sera accompagné par nos clubs locaux, hein, donc pourquoi pas l'Atlético et le Sporting Club de Paris aussi, qui a été promu champion de France de futsal la saison dernière. D'accord. Et qu'on a reçu récemment en mairie pour leur remettre leur titre. On aura une fan zone soit dans la halle ou soit dans le gymnase annexe qui est juste à côté. Et donc il y aura des activités et on va diffuser évidemment les matchs les plus importants. Je pense notamment à la finale, espérons que la France y soit.
Oui, et puis on va vous accompagner, Man, hein, on sera là-bas.
Évidemment, voilà. Évidemment.
Ouais. Et puis le CNOSF aussi, c'est dans le 13e, donc c'est aussi symbolique tout ça. Hein.
Tout à fait. Là où, le 13e, c'est un peu the place to be du sport. Ouais. Oui, je ne vous la pète pas. Mais...
Ah ouais. Fosco, dernier petit mot concernant le tennis de table.
Nous on essaye aussi de profiter de cet élan. Nous nous sommes portés candidats pour accueillir par exemple des équipes pour les prochains jeux, comme un gymnase d'entraînement, etc. Donc on attend des nouvelles. C'est la plus belle salle à Paris, nous espérons être choisis par une équipe de choix.
Oui. Dernier petit mot concernant votre sport. Est-ce qu'il manque pas une icône pour véritablement le populariser? Est-ce qu'il manque pas
dans notre club?
Oui. Non, mais pour votre sport, est-ce qu'il manque pas une icône ou une icône?
Au niveau national,
oui.
Vous voulez dire?
Oui, oui. Disons... Jean-Philippe Gatien comme avant, quoi.
Disons que, vous avez sans doute entendu parler de quelques jeunes qui sont.
Il manque une médaille, quoi, olympique.
On n'est pas loin. Bien sûr, on a des joueurs déjà qui sont au niveau mondial autour de la 10e, 20e place. Mais on a vraiment de beaux espoirs avec ses frères Lebrun qui n'arrêtent pas de nous émerveiller, qui ont battu aussi des joueurs internationaux, ou même des Chinois. Des Asiatiques qui dominent un peu la discipline. Donc, je pense qu'on assistera à des très beaux matchs lors des Jeux Olympiques. C'est
tout
certain.
C'est l'essentiel. Hein. Voilà.
En tout cas, je tiens à dire une chose aussi, c'est qu'en termes d'animation sportive, il y en aura beaucoup cette année, surtout avant les JO.
Et oui.
Parce qu'on a aussi la Coupe du Monde de rugby en 2023.
Après, la saison prochaine, en septembre 2023.
Exactement. Hein. Donc, on a beaucoup de choses à faire. Et, on est évidemment...
On accompagnera aussi l'événement. Puis en plus, il y a.
Évidemment, mais je sais que tu seras là.
Oui.
Tu me suis partout.
Voilà. Et bien, justement, tiens, on va finir avec le basket et puis le tennis. Alors hier, l'équipe de France a été malheureusement battue en finale. J'allais dire victoire logique d'Espagne, 88-76. Il n'y a pas de surprise. Alors on s'était quitté la semaine dernière avant le quart de finale. On va quand même rappeler que la France avait battu l'Italie 93-85 après prolongation et puis avait très largement dominé la Pologne 95-54. Mais sur le match de hier, Valentin, l'équipe de France n'a jamais été dedans.
On a eu une lueur d'espoir face à la Pologne, un jeu maîtrisé. Une domination complète, on fait reposer les cadres comme Rudy Gobert et Evan Fournier. Et malheureusement, je résume ça avec les Bleus n'ont fait que courir après le score toute la soirée. On a pris 10-15 points d'avance dans le premier quart.
Jusqu'à 21 points de retard.
Oui, 21 points de retard.
Alors, on y a cru un moment quand l'équipe de France a un petit peu révolté, elle est revenue à 10 points.
Fin du deuxième
pas.
Quart, avant la mi-temps, les Bleus qui se réveillent.
À 3 points,
troisième quart, effectivement, on se retrouve à 3 points, on se dit peut-être la lueur d'espoir. Et en fait. les Espagnols sont beaucoup trop forts. Et il y a encore le jeu de l'équipe de France qui est encore 19 ballons perdus. Ouais, donc c'est encore les ballons perdus. D'ailleurs, les Espagnols ont marqué près de la moitié de leurs points sur les ballons perdus de l'équipe de France, pendant que nous, sur les ballons perdus de l'équipe d'Espagne, on a marqué que 7 à 10 points. Ouais. On n'a pas su conclure quand il fallait, on n'a pas su accélérer le jeu quand il fallait. Et puis il y a eu des joueurs... on pensait que c'était l'équipe d'Espagne la moins forte de ces dernières années. C'était le cas aussi pour l'équipe de France. On va pas se mentir, sur le papier, il manque beaucoup de joueurs comme Nicolas Batum, Nando Docolo. Et on s'est retrouvé face à des joueurs espagnols dominants, des Juancho Hernán Gómez qui sont pas titulaires.
Beaucoup
qui
de paniers à 3 points.
Ouais, Juancho Hernán Gómez qui a été meilleur joueur du match, 27 points à 7 sur 9 à 3 points. Il a dominé la rencontre. Son frère Willy Hernán Gómez a été le meilleur joueur du tournoi. Et voilà, l'Espagne, ils ont deux joueurs, ils ont deux joueurs dans le top 5 majeur de la compétition, donc Willy Hernán Gómez et Lorenzo Brown, leur meneur. Nous, on a Rudy Gobert dans le 5 majeur. Il y a Giannis Antetokounmpo, le grec, et Dennis Schröder, l'allemand, qui viennent dans ce 5. Mais oui, les Espagnols ont été au-dessus et c'est une victoire logique. Et dans le dernier quart, on n'est plus là. Dans les 5 dernières minutes, on y croyait, on s'est dit pourquoi pas une accélération de Thomas Hurtel, de Evan Fournier, Rudy Gobert qui n'est pas rentré dans son match, tout simplement. Je pense qu'il a eu du mal. Il fait partie quand même des 15-20 meilleurs joueurs en NBA quand il a son meilleur niveau, Rudy Gobert. Mais là, il n'a pas su récupérer les rebonds quand il fallait. Il n'a pas été là en attaque ni en défense. Il marchait même pendant le dernier quart. Donc l'équipe n'était pas dedans. On espère que Vincent Collet a déclaré que ça peut aider l'équipe de France à atteindre un nouveau step, un nouveau cran. Donc on espère.
Moi, je suis un peu déçu quand même de cette finale parce que le match précédent, ils étaient quand même à touche-touche de perdre. Ils ont finalement gagné.
C'est vrai qu'être en finale, c'est déjà bien pour cette équipe de France. Lorsqu'elle a montré sur le tournoi, on en parlait avec Vincent.
Je pensais que ça allait les piquer et leur mettre en tête, les mettre en condition de là, c'est la finale, les gars, on va y aller, faut se donner à fond et tout. Et malheureusement, ça n'a pas été le cas. L'Espagne était largement au-dessus. Donc, il y a eu un loupé là.
Je pense que la Pologne a été un mauvais match dans le sens où c'était beaucoup trop simple. Face aux Turcs, on va en prolongation à 77-77 partout. L'Italie, pareil, le même score. Des faits de match où les deux lancers francs décisifs des Turcs et des Italiens sont loupés. Et après, on se retrouve face à une Pologne. On se dit, ils ont quand même éliminé la Slovénie de Luka Doncic. C'est quand même une grosse équipe. Et en fait, on leur a mis 40 points, 45 points. Donc je pense qu'après, face à une Italie qui a quand même éliminé l'Allemagne qui était chez elle, qui avait montré un très beau match, du très beau basket. D'ailleurs, Dennis Schröder qui a fait une
L'Allemagne
très belle
qui est troisième, 82-69 devant la Pologne pour la troisième place.
Donc c'est décevant. On espère que pour les prochaines compétitions, l'équipe de France déjà récupérera ses cadres comme Nicolas Batum, Nando Docolo, et qu'on aura une équipe de France qui sera meilleure en attaque, parce que c'est bien de faire jouer la défense. Vincent Collet, son principe de jeu, c'est la défense avant tout, mais l'attaque, on a terriblement besoin, surtout quand on récupère des ballons.
Alors, 22 matchs joués contre l'Espagne dans l'Euro, 18 victoires espagnoles. Ça parle. Et comment il se fait qu'en basket, contrairement au hand, on perd pratiquement toujours nos finales, que ce soit chez les hommes ou même chez les filles?
Franchement, je
on est souvent bien placé, mais il manque à chaque fois le petit quelque chose.
Oui, c'est ça. Il manque le joueur décisif. Ouais. Et puis, à une époque, on avait un joueur exceptionnel qui s'appelle Tony Parker, qui était le meilleur joueur qui est toujours le meilleur joueur
2013,
de l'histoire de l'équipe de France.
On se rappelle de son coup de gueule contre l'Espagne. Justement, en finale.
On a vu sur Twitter hier beaucoup de joueurs reposter ce discours, parce qu'à la mi-temps, on se dit c'est un discours comme ça qu'il nous faut pour nous relancer, et il n'y a pas eu.
Moi, ce que j'ai trouvé étonnant, c'est la réaction après le match de la Pologne. C'est-à-dire, on dirait qu'ils avaient gagné la coupe. En fait, tous les joueurs ont commencé à flamber sur les réseaux. Rudy Gobert qui fait des blagues sur les joueurs espagnols. C'était étonnant, voire déplacé, sur certains tweets de Rudy Gobert avant une finale d'une importance aussi élevée.
Surtout que aussi élevé, quand on voit son match juste après, il ne domine pas. En fait, il se fait dominer par Willy Hernán Gómez, par Juancho, par Rudy Fernandez, il se fait dominer par tout le monde, alors qu'on se dit que c'était son match. C'était le moment de montrer que c'était le co-capitaine de l'équipe de France, que Rudy Gobert n'est pas un simple pivot, et malheureusement, il n'a pas été présent, et il nous a manqué de taille dans cette finale. Et l'Espagne, on a beau dire ce qu'on veut sur l'Espagne.
4 fois champion d'Europe,
quand même. La meilleure nation du basket européen, et ça, pour le moment, ça ne bouge pas, et ça le restera. Et ils sont dominants, ils sont champions du monde en titre, champions d'Europe en titre.
Beau doublé.
Ils ont juste amené un petit moment de moins bien pour les JO, mais...
Ce qui manque, c'est peut-être cette petite...
ce petit joueur qui change tout.
Surcroît mental que ont souvent les gens du hand. Alors qu'eux perdent très rarement leur finale.
Qu'on ait des systèmes définis, parce qu'on va pas se mentir que sur la finale, beaucoup de fois on s'est dit, et même les commentateurs, les premiers, se disaient, mais que font l'équipe de France? On était ralenti, on jouait pas rapidement, alors qu'on a des Thomas Hurtel, des Andrew Albici, des Evan Fournier, qui sont des joueurs très rapides et qui ont été formés en NBA, en Euroleague, donc ils connaissent ce genre de match-là. Donc pourquoi pas plus jouer un peu sur eux, et on espère que dans les prochaines compétitions, on pourra espérer quelque chose qu'une simple médaille d'argent, qui est déjà exceptionnel, surtout avec cette équipe qu'on avait avec beaucoup de pertes de balles, mais on espérait avoir une petite médaille d'or, quoi. Surtout après les JO, ça aurait fait du bien, mais bon.
On va se consoler avec le Paris Basketball, puisque le championnat reprend donc
on espère.
Le week-end prochain. Je sais que tu es passionné de moto, tu voulais parler un tout petit peu de moto, et ensuite on va finir avec avec Federer.
Un petit mot rapide, ce week-end il y avait le Grand Prix d'Aragon en Espagne. Fabio Quartararo, qui a été champion l'année dernière, était en tête avec 30 points d'avance, et malheureusement premier virage il chute alors qu'il partait 6e. Donc c'est Francesco Bagnaia, donc encore un Italien, qui du coup revient à 10 points de Fabio. Donc là la fin de saison en MotoGP va être très tendue, sachant qu'il se renvoie la balle depuis le début de saison. Donc on espère un deuxième titre pour Fabio, mais attention, à tout moment une autre chute, et ça peut vraiment le mettre derrière, quoi.
Très bien, allez, on ne voulait pas finir cette émission sans rendre hommage à une icône, hein, qui s'en va du tennis, Roger Federer. Alors on avait parlé de Serena Williams la semaine dernière dans notre rétro des événements sportifs de l'été, hein, qui elle s'arrête après 23 tournois du Grand Chelem. Federer, il a décidé lui aussi de faire pareil. Il va s'arrêter le week-end prochain à la Rod Laver Cup après 20 tournois du Grand Chelem.
C'est ça, c'est avec pas mal de tristesse que j'ai écrit pour cette émission. Un grand champion, on a parlé la semaine dernière de Serena Williams, c'est des gens qui ont révolutionné leur sport, déjà par leur performance, mais aussi par leur façon d'être, leur façon de vivre le sport. Donc j'ai quand même pas mal de stats, parce que Roger Federer, il en a battu des records. Ouais. Comme tu l'as dit, le premier à avoir remporté 20 tournois du Grand Chelem. Après, il a été dépassé par
Nadal,
Djokovic,
22,
par
Djokovic,
Nadal.
21, ouais.
Exactement. Il a aussi le record de victoires à Wimbledon, avec 8 victoires quand même. Mm-hmm. C'est-à-dire que là, c'est chez lui. Hein. Il a une maison là-bas maintenant. Hein.
Ouais, dont 5 d'affilée, c'est ça ?
C'est ça.
2003, c'est... jusqu'en 2007. Ouais,
c'est vrai que c'était une suprématie suisse.
Il a tout gagné, comme Djokovic et Nadal. Parce que quand on regarde, il a un Roland-Garros, 8 Wimbledon, 6 US Open, 5 Melbourne. Il a gagné aussi 6 fois le Masters, une fois la Coupe Davis, ce qui est quand même important.
2014,
Et puis il a un titre de champion olympique en double, ce qui n'est pas rien. Et puis il a aussi gagné même Bercy une fois.
Voilà. C'est ça.
Le double, il l'avait gagné avec Wawrinka en 2008 à Pékin.
Et il a eu aussi, parce qu'il a fait une victoire au JO, une victoire en or, mais il a aussi 13 médailles en tout.
Oui, bien sûr.
13 médailles, c'est pas rien. Juste derrière lui, il y a Andy Murray avec 12 médailles, je crois. Et ensuite, ça descend vers 7-8 médailles. Donc, encore une fois, ça montre sa suprématie. Mais sa suprématie, c'était aussi dans son nombre de victoires en Grand Chelem. Parce qu'on voit un joueur comme Rafael Nadal, qui a 22 Grand Chelem à son compte, a beaucoup moins de matchs gagnés que des joueurs comme Djokovic. Et Roger Federer, c'est 366 succès en Grand Chelem, mais du coup premier, et juste derrière Djokovic avec 334 succès. Tu l'as dit, il a gagné 6 Masters, ce qui n'est pas rien. Et il ne faut pas oublier que le champion suisse est resté 237 semaines d'affilée en tête du classement ATP.
Il a gagné Bercy aussi, enfin bon.
Oui, on est à Paris, on est obligé de parler du tournoi de Bercy. Au-delà des records de Federer, excusez-moi, j'en ai parlé au début, c'est un homme qui a fait connaître le tennis au monde avec ses partenariats, notamment avec Rolex et tout. C'est l'homme qui a développé tout un sport. Et comme on part jamais sur une mauvaise nouvelle sur mon Paris Sport, j'aimerais parler d'une idée qui a été dont a parlé Florentino Pérez, qui serait de faire un show match pour l'ouverture du Bernabéu, automne 2023, devant plus de 80 000 spectateurs. Un show match contre son ami et son adversaire de toujours, contre Rafael Nadal. Je pense que ça pourrait être une fin magnifique pour le champion suisse.
Oui, et puis en plus, c'était quand même quelqu'un qui avait une philosophie par rapport à son métier, assez remarquable. Et puis un joueur élégant en tennis.
Complètement. Moi, je suis très tennis de base.
Le plus grand sportif suisse.
Je suis dans mon élément.
Devant les skieurs et les footballeurs.
Je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. enfin moi Federer, enfin même voilà, il y en a trois, il y a évidemment Federer, Nadal et Djoko, hein,
ouais, qui, c'est pas le même genre.
C'est pas le même genre, mais ouais. En tout cas on a Nadal et Federer qui ont quand même bien marqué plusieurs générations. Mmh. Et on sent que malheureusement on est sur la fin en fait de d'un cycle en fait.
Donc ce serait bien qu'ils fassent pour leur rendre hommage, hein, Nadal, Federer à Bernabéu.
Pour une fois une très bonne idée de Florentino Pérez. Il dit pas de bêtises.
Tout à fait.
Ouais. Vous qui venez du tennis.
De table.
Ouais, non mais vous avez fait du tennis Donc Federer. Il manque champion qui se retire, mais en plus du champion, du palmarès, c'est l'homme aussi qui a été important.
Je suis complètement d'accord. Je pense que ces champions, ils sont là pour inspirer les jeunes, pour être un modèle de comportement. Et l'élégance, le fair play. On me dit que quand il était très jeune, même Federer a cassé des raquettes. Mais, moi, depuis que je le vois, depuis, je ne sais pas, 15, 20 ans ou plus, je suis vraiment admiratif de maîtrise de soi, de fair play, de sympathie. Sincèrement... Je suis je sais pas pour quelle raison, plutôt pro-Nadal, mais chapeau Federer.
C'est le latin qui parle, là.
Mais Federer...
C'est un peu comme lui, j'avoue. Mais gros respect pour Federer aussi.
Federer, je pense que c'est vraiment quelqu'un qu'on a envie à qui on a envie de ressembler. Voilà. Et ça c'est en tout, quoi. C'est pas seulement dans la performance.
Ouais, personne aujourd'hui ne dit. Je connais rarement quelqu'un qui me dit je n'aime pas Federer, son jeu. Ouais. Il a élevé le tennis au niveau d'art tellement c'était propre. Et je regardais un documentaire sur Netflix où il y a Marty Fish, l'ancien numéro 1 du tennis américain, qui déclarait que Roger Federer, à chaque fois qu'il l'affrontait, arrivait à s'adapter à son nouveau jeu, à ses nouveaux coups, et à chaque sur n'importe quel court il était. Et que c'était pour lui le meilleur joueur du tennis au monde, parce que c'est ce calme dans ce regard et de faire des matchs de 57 minutes voire moins, de régler l'affaire en à peine une heure, c'était vraiment de l'art, ouais. C'était beau à voir.
Et puis on se rappelle de ses larmes lors de sa victoire sur Roland Garros.
Juste avant de finir, on parlait de l'homme, et je trouve ça très 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 important, comparé à un joueur comme Djokovic, dont je ne me prononcerai pas, mais là on est ici pour parler
comme toi.
On est ici pour parler de la science du sport, de apporter le sport aux jeunes, de donner envie de jouer à n'importe quel sport aux jeunes. Et c'est des... Enfin, moi, j'ai commencé à jouer au tennis grâce à Nadal, grâce à Federer. C'est-à-dire que c'est des joueurs qui te donnent envie d'aller sur les terrains, d'aller regarder, d'aller voir Roland Garros, même des matchs de poule, enfin pas de poule, mais de présélection. C'est l'amour du sport, c'est la beauté du sport et c'est la beauté d'un humain, tout simplement.
Très bien.
Pour faire un dernier truc, pour faire un comparatif avec Djoko, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. Le truc qu'on a chez Djoko, c'est... tout est basé sur la performance sportive. Il y a un côté malheureusement hautain qui rend le truc moins accessible.
D'accord.
Très bien, messieurs, merci en tout cas d'avoir participé à cette émission. Ça a été un plaisir, merci à Jason, et puis on se retrouve la semaine prochaine, donc 19h 20h30, et on finit avec Orelsan basique. Bonne soirée à toutes et à tous.
Orelsan,
c'est ça. Oui, je suis pas un grand spécialiste. Allez, Orelsan basique. Allez, bonne soirée.
Bonne soirée.
Ok, je vais sortir un nouvel album, mais avant, faut qu'on revoie les bases. Je vais faire une vidéo simple, où je vais dire des trucs simples, parce que vous êtes trop cons. Simple, basique, ok. Les gens les plus intelligents sont pas toujours ceux qui parlent le mieux. Simple, les hommes politiques doivent mentir, sinon tu voterais pas pour eux. Basique, si tu dis souvent que t'as pas de problème avec l'alcool, c'est que t'en as un. Simple, faut pas faire un enfant avec les personnes que tu connais pas bien. Basique, les mecs du FN ont la même tête que les méchants dans les films. Simple, entre avoir des principes et être un sale con, la ligne est très fine. Basique, Hugo Boss habillé des nazis, le style a son importance. Simple, les dauphins sont des violeurs, ouais, méfie-toi des apparences. Basique, basique, simple, simple, basique, basique, simple, simple, basique. Vous n'avez pas les bases, vous n'avez pas les bases, vous n'avez pas les bases, vous n'avez pas les bases. c'est marqué sur internet, c'est peut-être faux, mais c'est peut-être vrai. Simple. Illuminati ou pas, qu'est-ce que ça change, tu te fais baiser. Basique. À l'étranger, t'es un étranger, ça sert à rien d'être raciste. Simple. Les mecs les plus fous sont souvent les mecs les plus tristes. Basique. 100 personnes possèdent la moitié des richesses du globe. Simple. Tu seras toujours à un ou deux numéros d'avoir le quintet dans l'ordre. Basique. Si t'es souvent seul avec tes problèmes, c'est parce que souvent le problème c'est toi. Simple. Toutes les générations disent que celle d'après fait n'importe quoi. Cliché. Basique. Simple. Simple. Basique. Basique. Simple. Simple. Basique. Basique. Simple. Simple. Basique. Basique. Simple. Simple. Basique. Thank you.